à l'écoute d'RFI. En direct de Paris, il est 20h.
Adrien Delgrange.
19h, temps universel, à la une de cette édition internationale du 14 février. Il était attendu sur l'Ukraine. Il a préféré donner aux Européens une leçon sur la démocratie. À Munich, le vice-président américain J.D. Vance a creusé un peu plus le fossé entre Washington et ses alliés européens. Notre correspondant à Berlin nous attend. L'actualité au Proche-Orient. Israël attend la libération demain, samedi, de 3 otages à Gaza. En Afrique, dans l'est de la RDC, les combattants du M23 appuyé par des militaires rwandais, progresse sur le front du Sud Kivu. De la musique dans ce journal, avec la grand-messe de la chanson française. Ce sont les 40e victoires de la musique ce soir à Paris. Et puis juste après cette édition, ici l'Europe, Caroline de Camaret reçoit Thierry Breton, ancien commissaire européen.
RFI.
Le vice-président américain J.D. Vance était très attendu à la conférence sur la sécurité de Munich, forum qui réunit chaque année le Gotha du monde diplomatique et de la défense. Beaucoup espéraient des explications sur la politique étrangère de la nouvelle administration Trump et plus spécialement sur l'Ukraine après l'annonce cette semaine d'un entretien téléphonique entre le président américain et le président russe. Mais à l'arrivée, J.D. Vance n'a fait qu'effleurer la politique étrangère pour privilégier une attaque en règle de l'Europe où la liberté d'opinion serait menacée. Pascal Thibault est à Berlin.
Un règlement de compte sans précédent avec l'Europe. C'est ainsi que la chaîne de télévision allemande ARD résume le discours du vice-président américain. J.D. Vance a, avec différents exemples, dénoncé des pays européens qui limiteraient la liberté d'expression, exerceraient une forme de censure sur les réseaux sociaux et rejetteraient certaines forces politiques, comprenez les partis populistes de droite.
Il semble de plus en plus que des intérêts très enracinés se dissimulent derrière des mots hérités de l'époque soviétique comme désinformation. Pour lutter contre des personnes qui ont des points de vue alternatifs ou, oh mon Dieu, osent voter différemment ou même gagnent des élections.
L'assistance à la conférence sur la sécurité de Munich a écouté pétrifié le discours de J.D. Vance. La mention du cordon sanitaire a été perçue comme une allusion directe aux élections allemandes et au parti d'extrême droite AFD. Sa présidente a d'ailleurs salué le discours du vice-président américain. Sur place, le ministre de la Défense allemand, le social-démocrate Boris Pistorius, a évoqué les déclarations inacceptables. Le quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine commente « Une telle immixtion américaine dans la vie politique allemande est sans précédent depuis la dénazification après la guerre. À l'époque, il fallait lutter contre les nazis. Aujourd'hui, Vance vante les mérites de l'AFD. » Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et nous apprenons que le vice-président américain J.D. Vance a rencontré ce soir dans un hôtel de Munich la candidate à la chancellerie de l'extrême droite allemande, Alice Weidel, et ce à une semaine des élections législatives en Allemagne. Au Proche-Orient, Israël a reçu aujourd'hui les identités des 3 otages libérés demain. Après plusieurs jours d'incertitude, le Hamas confirme que 3 hommes seront libérés ce samedi en échange de la libération de prisonniers palestiniens détenus en Israël. On ne connaît pas encore le nombre de libérés côté palestinien. En RDC, les combattants de l'AFC et du M23 sont arrivés à l'aéroport de Kavumu, à 35 km au nord de Bukavu. Une progression rapide qui a provoqué une onde de choc dans la région. À Bukavu, la tension est palpable. Pendant ce temps-là, à Munich, Félix Tshisekedi reste ferme. Pas de dialogue avec l'AFC et le M23. Le président congolais accuse le Rwanda d'être derrière ces combats et pointe également du doigt son prédécesseur, Joseph Kabila. Au Liban, il y a 20 ans, jour pour jour, une bombe explosait en plein Beyrouth. Le premier ministre libanais de l'époque était visé par cet attentat. Rafik Hariri meurt. Aujourd'hui, 14 février, des milliers de Libanais se sont rassemblés pour marquer le 20e anniversaire de la mort de Rafik Hariri. N'oublions pas que dans cet attentat, 21 autres personnes sont mortes. Aux États-Unis, des licenciements à tour de bras. Les licenciements massifs des fonctionnaires promis par le président Trump ont commencé. La presse parle d'une véritable purge. À Rimley-Pold, environ 200 000 fonctionnaires sont concernés. Il s'agit notamment de personnes en période d'essai.
La mauvaise nouvelle est tombée par email ou vidéo pré-enregistrée. Certains employés n'ont eu que 30 minutes pour rassembler leurs affaires et quitter leur bureau. Le département des anciens combattants est le plus touché, avec plus de 1000 personnes en période d'essai limogées en une seule journée hier jeudi. On ignore encore combien des plus de 2 millions de fonctionnaires fédéraux seront concernés par cette vague de licenciements sans précédent. Le président Donald Trump veut une administration plus efficace, mais aussi éliminer ce qu'il qualifie de « deep state », c'est-à-dire l'état profond, ces fonctionnaires qui jugent déloyaux. Les licenciements sont brutaux, les lettres publiées dans la presse évoquent des compétences et performances jugées insuffisantes. Face à cette réduction drastique d'effectifs, la contestation monte. Après des actions syndicales, une dizaine de procureurs démocrates ont porté plainte hier devant un tribunal fédéral. Ils remettent en cause l'autorité d'Elon Musk et de sa commission Dodge à l'origine de cette offensive destinée à réduire les dépenses publiques.
Washington, qui par ailleurs va relever ses barrières douanières au niveau de ses partenaires commerciaux à partir du mois d'avril. Toutefois, Agnieszka Kumor, en décrétant ces nouvelles taxes, le président américain se trompe et remet en cause la politique fiscale des autres pays sur leur propre marché intérieur.
Donald Trump souhaite de la réciprocité dans les échanges commerciaux avec les États-Unis et il estime que l'Europe taxe trop les produits américains. Mais selon les calculs de l'OMC, si l'UE taxe légèrement plus certaines marchandises venues d'outre-Atlantique, ramenées au volume échangé, les droits de douanes américains sont plus élevés que ceux de l'UE, en moyenne 1,4% contre 0,9%. Cela s'explique parce qu'une part plus importante des exportations américaines entrent en Europe sans taxes. En fait, ce qui déplaît fortement à Donald Trump, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée que doivent payer les marchandises qui entrent en Europe. Mais ce qu'il oublie, c'est que les productions européennes y sont aussi assujetties tant qu'elles sont vendues en Europe. Bien sûr, elles en sont exemptées quand elles sont exportées vers les États-Unis. Mais outre-Atlantique, on leur appliquera une taxe au moment de la vente aux consommateurs, en moyenne 6,6%, comme c'est le cas des produits américains.
Cette question à présent, Siri, l'assistant vocal de vos appareils Apple, vous écoute-t-il ? Radio France et Le Monde révèlent qu'une plainte a été déposée cette semaine par la Ligue des droits de l'homme en France contre Apple. Elle repose sur le témoignage d'un lanceur d'alerte qui accuse l'entreprise à la pomme d'avoir violé la vie privée de ses utilisateurs. Benoît Narbonne.
Pour la première fois, il y a un témoignage, celui du lanceur d'alerte Thomas Le Boniek. Il travaillait en 2019 en Irlande pour un sous-traitant d'Apple en tant qu'analyste de données. Il écoute, retranscrit et trie les demandes enregistrées par l'assistant vocal. Par exemple, si un enregistrement « appel maman » est traité, un analyste va chercher le terme « maman » dans le répertoire de l'appareil pour indiquer à l'assistant la bonne procédure. L'objectif de ces corrections, améliorer les réponses de Siri. Le Boniek constate que des centaines de millions d'enregistrements sont ainsi captés à l'insu des usagers. Ils contiennent de nombreuses données personnelles, maladies, opinions politiques ou encore sexualité. Une captation de l'information d'ordre privé qui va à l'encontre de la régulation européenne sur la protection des données. C'est le sens de la plainte posée par la Ligue des droits de l'homme. Apple a réagi, affirmant ne pas utiliser les données personnelles de ses utilisateurs à des fins commerciales.
Et puis enfin, comme chaque année depuis 40 ans, la France va vibrer ce soir pour ses chanteurs, ses musiciens. Alors si les jeunes talents sont à l'honneur ce soir, Eddy Mitchell, Sylvie Vartan vont recevoir une victoire d'honneur, Olivier Roger.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser.
50 albums, 40 millions de disques vendus, 64 ans de carrière, mais aucune récompense. Sylvie Vartan verra ce soir cette injustice réparée en recevant une victoire d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. À 80 ans, celle qui a tiré sa révérence en janvier dernier côtoiera un vieux copain, Eddy Mitchell.
Je suis pas comme Eddy, je veux rester ici.
82 ans, 40 albums, Monsieur Eddy est le symbole d'un artiste qui a su évoluer pour durer. On souhaite la même longévité aux jeunes pousses de la chanson française qui briguent ce soir les précieuses statuettes. Santa et son titre Recommence-moi est en liste dans 4 des 9 catégories.
Et s'il ne reste plus rien du tout,
Côté révélation, Solane, Stiletto, Yoa chez les femmes, Alyosha Schneider, Pierre Garnier et Lucky Love chez les hommes brigueront la récompense. Si, comme chaque année, on peut déplorer une sélection de moins en moins riche, des oublis et autant de critiques, on peut se réjouir de voir figurer en lice pour le concert de l'année les cérémonies des Jeux Olympiques qui ont tant marqué les esprits. Enfin, la soirée sera présidée par le chanteur Alain Souchon. Lui a déjà remporté 10 statuettes dans sa carrière.
Et l'heure de passer à présent la main sur Radio France Internationale à Caroline de Camaret, ici l'Europe.